La dépouille de Salvador Allende vient d'être exhumée. Ce lundi, une autopsie doit commencer pour déterminer si l'ancien président chilien a été tué par l'armée ou bien s'il s'est suicidé. Version officielle jusque-là, lors de la prise de la Moneda, le palais présidentiel de Santiago, le 11 septembre 1973.
Tous les dimanches, okay. À 20h10,
ouais, voilà.
Le masque et la plume.
Il est sévère.
Non.
Jérôme Garcin.
Rien à ajouter, non.
Littérature.
Je l'ai pas accablé.
Attends une seconde. Cinéma. C'est ça qui est intéressant dans le film. Il nous renvoie
ça
une image.
Théâtre.
Laissez-moi terminer.
Franchement, quand le rideau est tombé, on avait l'impression que ça allait commencer enfin.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
Pardon.
Oui, mais non.
Rendez-vous jeudi dès 19h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter.
La différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h04. On retrouve tout de suite Daniel Mermet pour là-bas si j'y suis.
Bonjour, je suis Alain de Chalon. Poilu, barbu, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu là, c'était la loi des Gaulois. Et oui, mon idole, c'était pas Johnny, c'était Rissé Barrier. Et il est mort. Je suis triste. Au revoir.
Non, j'ai pas bûché des oignons, non. Mais qu'est-ce que je suis ému. Voilà Carla, 14 petit, joli petit bébé. Et puis comme dit Madame Chirac, tous les Français sont heureux de cette nouvelle. Les SDF, les chômeurs, les licenciés, les Don Quichotte, tout le monde. Oh, c'est trop beau, moi, c'est mimi. Oh, notre beau président qui va être papa. Ciao.
Allô? 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 Allô la rédaction? Allô? Allô la rédaction, Radio France? Il y a une révolution qui commence en Espagne. Allô? Il y a quelqu'un? Il y a une révolution qui commence en Espagne. Il y a même un début d'amorce de mouvement en Italie. Allô? Il y a quelqu'un? Allô la télé, la radio? Allô, il y a quelqu'un? Il y a une révolution qui commence en Espagne. Oh et la rédaction, vous répondez? Allô?
Oui, salut Daniel, je t'appelle depuis la place du Sol à Madrid. On y voit, la révolution espagnole est bien allumée. Et il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'on nous a pris par des cons. Et maintenant les gens semblent bien réveillés. Bah, j'espère que de la même façon que la révolution a traversé la Méditerranée, une fois, elle va traverser les Pyrénées. Allez, salut, ciao.
Salut Daniel, c'est Julie. Bah écoute, j'habite à Séville et je voulais juste te faire écouter l'ambiance qui est ici. Écoute ça. Vive la révolution.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les Angers et bonjour à toute l'équipe de la base ici. Moi j'habite à Grenade. C'est magnifique ce qui se passe ici parce que, enfin en tout cas dans ma vie à moi, j'ai 30 ans, c'est la première fois que je vois un mouvement réellement unitaire, un mouvement qui ne se centre pas sur un problème de retraite ou sur un problème de temps de travail ou sur un problème de privatisation de telle ou telle entreprise avant nationale. Non, c'est un mouvement qui remet globalement en cause ce que d'aucuns appelleront le système. Et c'est très beau parce que il y a des gens de toutes sortes, de tout horizon. C'est un mouvement qui se déclare apolitique, asyndicaliste. Les gens s'organisent, ils apprennent à prendre des décisions ensemble. Ça va lentement, mais sûrement. Lundi, il y avait 200 personnes sur la place du Carmen. C'est la place de la mairie à Grenade. Aujourd'hui, on était peut-être 2000, entre 2000 et 3000. Je suis pas une spécialiste du comptage de tête, mais on était très nombreux. En tout cas, la place, elle était pleine. Je sais qu'il y a des accampamentos, des campements de de cette sorte-là à Madrid et apparemment il y en a à Bruxelles. Enfin voilà, et j'ai appris aussi que le gouvernement espagnol avait demandé aux médias de se taire et de ne pas diffuser d'images ou d'informations sur ces campements-là. Je sais pas ce qu'il en est en France, je sais pas quelles sont les informations que vous avez, mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, à Grenade, c'est très beau, c'est très très beau, et ça me donne beaucoup d'espoir à moi, qui commençais sérieusement à être désespéré.
Oui, c'est très beau. C'est très très beau, mais on est très inquiet en France. Supposons que ces Espagnols fassent comme les Tunisiens, la révolution, et que par la suite, après que nous ayons fait là-bas des reportages magnifiques, héroïques, exaltés, que ces Espagnols aient l'idée de venir en France, où on vivrait mieux, où ce serait bien, où ils viendraient nous rendre visite. Qu'est-ce qu'on en ferait de ces Espagnols? Qu'est-ce qu'on en ferait quand ils seraient, par exemple, parqués vers la Villette, sous les boulevards extérieurs? Qu'est-ce qu'on en ferait? On les renverrait, on les parquerait peut-être sur les plages d'Argelès, dans le sud de la France. C'est quand même ennuyeux, ces histoires de révolution. Il faudrait dire à tous ces jeunes Espagnols de Grenade, de Madrid, de Barcelone, d'arrêter. Ça nous plaît bien 5 minutes, nous ça nous fait des belles photos, des beaux reportages, des belles exaltations, mais après il y a des conséquences, il y a des suites à tout ça. Et il y a une suite à la révolution tunisienne, la merveilleuse révolution tunisienne, la Tunisie du jasmin et cette merveilleuse jeunesse. Cette merveilleuse jeunesse, elle a voulu nous rendre visite en France et on peut pas dire qu'elle a été très très bien reçue jusque-là. En tous les cas, c'est notre sujet aujourd'hui. Les jeunes Tunisiens en France. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Les radars, c'est pas fait pour, en tout cas dans mon esprit, pour remplir les caisses de l'État, d'ailleurs, parce que vous avez raison, ça serait scandaleux d'enlever les panneaux qui préviennent.
Donc les panneaux seront maintenus.
Mais bien sûr que les panneaux
seront. Parce que les Suisses ont enlevé les panneaux, je crois.
Hein. Ah non, enfin les Suisses, c'est les Suisses. Moi, je suis candidat à la présidence de la République française. Il y a un devoir de sincérité des responsables politiques. On ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'on est en campagne présidentielle. Moi, je veux vous dire la vérité, mais les radars ont quand même permis de sauver des vies.
Un devoir de sincérité ! Sincérité !
Bonjour à tous, c'est Pierre en Vendée. Le 25 mai, c'est le dernier mercredi du mois, alors les amis du repère de Chaland, en Vendée, se réuniront à 20h au café Le Danube pour y aborder le bilan du week-end des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui au plateau des Glières. Alors à mercredi.
Bonjour. Quand on entend que Martine Aubry soutient la candidature de Christine Lagarde au FMI, je comprends que la moitié des citoyens ne votent plus. L'ouverture aux pays émergents, elle ignore totalement. Je suggère à Christine Lagarde, qui est ultra-libérale, de mettre toute la planète au FMI. Elle aura du mal avec l'Amérique du Sud. Ils en sont presque tous sortis. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Bonjour. Nous sommes 23 titulaires des Palmes académiques du département de la Loire qui avons décidé, face à l'entreprise de démolition du service public d'éducation par M. Châtel, ministre de l'Éducation nationale, de rendre notre distinction. Nous tenons une conférence de presse ce mercredi 25 mai 2011 à 10h à la Bourse du Travail de Saint-Étienne, salle 93, pour médiatiser par une lettre ouverte les motifs de notre décision. Merci.
Quand on était en Tunisie, tous les Tunisiens ils pensent que la France c'est la paradis, Paris c'est la paradis, mais au sens contraire, quand on est arrivé ici, on n'a rien trouvé.
La Tunisie est en train de s'ouvrir à la démocratie, à la liberté.
Claude Guéant, ministre de l'Intérieur et de l'Immigration.
La France n'entend pas subir une immigration à caractère économique.
Vous appelez comment ?
Matière, monte, chez vous. C'est pas chez nous en Tunisie. En Tunisie, on a accueilli 400 000 réfugiés, les biens. Et vous, 20 000 et vous plairez.
La France n'entend pas subir une immigration à caractère économique.
En Tunisie, c'est pas la question qu'il n'y a pas de travail là-bas. Il y en a beaucoup de travail, il y en a partout de travail. Le problème, c'est les mauvais salaires.
C'était combien ton salaire dans le tourisme ?
C'est 420 dinars, ça fait 205 euros par mois. Et j'ai de la chance, parce qu'il y en a lui mauvais qui est mon salaire. Il y en a des gens qui prennent 200 dinars, ça fait 100 euros par mois.
Pour l'instant, ils trouvent déjà du travail. Il y en a beaucoup qui trouvent du travail. Parce que l'économie française a besoin d'eux. Il y a des secteurs entiers qui ont besoin d'eux.
La France n'entend pas subir une immigration à caractère économique.
C'est ridicule que des pays de 60 millions d'habitants puissent se poser des problèmes pour 15 000, 10 000, mais même 30 000 ou même 50 000 immigrants. Voyons, c'est vraiment ridicule.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Inès Leroux, la belle dame, la France.
Flight number 2, arriving from
Singapore. On est au square de la Villette, tout au nord de Paris, à la frontière entre Paris et la banlieue. Au pied du périph, entouré au loin par des tours, des hôtels B&B, des hôtels Mercure, et la gare de RER. Et c'est dans ce petit parc, tout bétonné, avec quelques pelouses et quelques arbres, où vivent depuis 3 mois environ plusieurs centaines de jeunes Tunisiens qui sont passés par Lampedusa, l'île de Lampedusa, et ils sont appelés les Tunisiens de Lampedusa. Les jeunes sont allongés, discutent entre eux. Il y en a même qui sont assis sur le toboggan ou les jeux pour enfants qui sont au milieu du parc.
Le jasmin, oh la révolution, le printemps, la jeunesse populaire, la merveilleuse jeunesse tunisienne. Vous vous souvenez? Les médias exaltés qui se marchaient dessus en direct de Tunis en janvier dernier. C'était il y a un siècle. Janvier dernier, c'est sous une pile de tsunamis, de Fukushima, de Ben Laden, de DSK, oubliez la Tunisie. Mais elle a pas oublié. La merveilleuse jeunesse tunisienne, elle a pas oublié. Cette France si fraternelle, si admirative, bras dessus, sur la photo. Appelle-moi si tu viens en France. Choukran, merci. Eux n'ont pas oublié. Et dans Révolution, il y a rêve, il y a horizon, il y a aventure. Comment dit-on ça en arabe? L'envie d'aller voir là-bas si j'y suis. Voilà ce qui les a poussés à partir, ces jeunes Tunisiens merveilleux, tenter l'aventure, franchir le mur de la mer et fuir le chômage, la galère, les années de dictature mafieuse, de flicage, de délation, d'humiliation, de violence. Et voilà. Et puis, plus beaucoup de boulot aujourd'hui en Tunisie, surtout dans le tourisme. Ah, il y a ça aussi. Des années durant, ils ont servi les touristes français pour 6 euros par jour, et qui ont dit, viens nous voir si tu viens en France un beau jour. Et les voilà, ils sont venus en France, ils sont combien, une vingtaine de mille, 20 000 environ, à avoir quitté la Tunisie à partir du 14 janvier, dès que ça a été possible. On les appelle, comme ils viennent de le dire, les Tunisiens de Lampedusa, et un certain nombre sont ici, essayent de s'accrocher aux branches, mais on peut pas dire que l'accueil soit très chaleureux. La France a renvoyé plus de 3200 Tunisiens clandestins vers l'Italie ou la Tunisie depuis la fin février, a déclaré fièrement le fier monsieur Guéant. C'est avec ces gens-là qu'on se balade aujourd'hui, une balade un petit peu en traînant les pieds, une balade un peu fatiguée, fatigante depuis le temps que ça dure, avec quand même d'autres perspectives, d'autres propos, d'autres analyses que celles qu'on entend ordinairement dans la bouche de ceux qui inlassablement font ce triste petit boulot de copier le Front National. Comment dit-on en arabe « va voir là-bas si j'y suis ». وين ماشي وين ماشي بقهرتي اعطيني وهرتي في الاوروب نشرب قهوتي خارج قبل ما نموت السينما كليت قنود دخول عالدار نلوج عالفخوت فوق عسيل عالكخوت ماشي وين باش تشوف تساوري مغربان نلوج عالاوروب في بلاد الكاوري ماشي نلوج على الزهري وين تلجع بط ماشي نجيب البط وخويا نجيب وراقي ماشي نجيب العطي فيزا في الباسبور ماشي محفور ماشي خاسر في الليل ان شاء الله نربح رابح في الرتور ماشي جيبي فارق حالي عسيرو اما قدوه تبقى تشوف قداش نولي نسوى في اللورو كي تال بلاد تالا ما شو بطلال مش مبور ما بشيش في باكي دولال تاكيال فوق موا جي فاك ويجا غنيان بيش طافيا دو موا يتي فخبك كي دميان كي تال بلاد تالا ما شو بطلال مش مبور ما بشيش في باكي دولال تاكيال فوق موا جي فاك ويجا غنيان بيش طافيا دو موا يتي فخبك كي دميان ماشي بعيد ماشي باش نشق بحر ماشي باش نكون نلبس ناكل اللي حضر ماشي باش نطيح من قوم ما يعرفني حتى حد بيضا تحت بيا في الغربة ما تقول حتى حد ماشي مسبق لمين ماشي مسبق الخير ماشي ندوج على قوتي كيما العصفور اللي يطير ماشي صغير في العمر اما كبير في التخمام ماشي متذكر اللي ورايا اما نخزر القدام ماشي قلبي في المياء سي نورمال مستراسي فرحان ببلاد كبرى اما ماهمش اهلي وناسي ماشي في طيارة ماشي وين الريحة تهب عشت في بلادي وغدوة باش نجيب الذهب كي داير بلاد تالا ماشي غدران جمون فول ما مشيش في باكي دولان تاكيت فوق موا جيبك ويجا غدران لي جرا فيا دو موا يجي فخبك كي دميان كي داير بلاد تالا ماشي غدران جمون فول ما مشيش في باكي دولان تاكيت فوق موا جيبك ويجا غدران لي جرا فيا دو موا يجي فخبك كي دميان
Ils sont des centaines à se retrouver chaque soir
AFP
dans ce parc coincé sous le périphérique de Paris.
1er mai 2011.
Des Tunisiens clandestins partis de Zarzis en bateau il y a 2 ou 3 mois et ballottés depuis entre la France et l'Italie. Ils n'ont pas hésité à risquer leur vie pour ce qu'ils croyaient être un Eldorado. En attendant, pas de papier, pas de travail et donc pas d'argent.
Il doit être 23h maintenant, la nuit est tombée sur le parc de la Villette.
Là-bas, t'as vu.
Les Tunisiens se sont dispersés pour pas être ennuyés par la police. Il y a la police en fait qui vous regarde. Il y a la police qui s'approche. Ils longent le parc très doucement en nous regardant. On voit des ombres dans la nuit, des gens qui sont couchés par terre, sur des bancs, avec une couverture.
Et les polices. J'ai cherché
des clandestins tunisiens, des immigrés. Oui. Tous les jours chercher ici. Tu connais, nous avons tous les personnes qui viennent ici, viennent à la mer. Et nous avons un stress de mer. Tu connais le stress de mer.
Vous êtes venu par la mer et vous êtes stressé.
Le stress de mer. C'est mer et juste ciel. C'est beaucoup de stress. Mais le stress que nous avons vécu maintenant avec, à cause des polices, c'est plus fort que le stress de mer. La police, elle est tous les jours dans les stations du métro. Elle a attrapé les immigrés tunisiens. Et la police, tous les jours, ici, il y avait dans le jardin, quand tu es resté loin du groupe, il est attrapé. C'est ça, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons beaucoup de stress. Stress de dormir dans le jardin, stress de froid, et encore stress de police. Et nous avons, viens ici pour chercher un peu de droits de l'homme, mais encore, la France ne trouve pas ces droits.
Ouais. Vous avez quel âge, vous?
Moi, 23.
Vous avez appelé comment?
Ah, Mohamed. Je venais comme tous les jeunes tunisiens, nous avons vécu à la Tunisie. Ça fait 20 ans presque de la rêve d'Europe, de regarder l'Europe, de comme tous les hommes, comme tous les jeunes de tout le monde. Quelqu'un avait son rêve. Alors qu'on a trouvé la solution de venir à la mer, nous vient pour regarder cette rêve, mais c'est pas mon rêve peut-être.
La révolution, c'était pas un rêve aussi?
C'est un rêve, oui. Pour nous, c'est un rêve imaginaire pour nous, c'est la révolution. Et la Tunisie peut-être devient mieux que les années de Ben Ali.
Et pourquoi la révolution, ça consisterait pas aussi à avoir soudain la possibilité, les ailes pour aller faire un tour ailleurs. Pourquoi pas qui a dit ce qu'était exactement la révolution. En tout cas, on les a soupçonnés, ces jeunes Tunisiens, d'être ces délinquants de droit commun qui s'étaient évadés des prisons à l'occasion de la chute du régime, ou bien être des simplement des ex-collaborateurs de Ben Ali, ce qui serait pas étonnant. Il y a énormément de collaborateurs. L'ami Ben Ali, notre ami Ben Ali, notre ami Ben Ali, vous vous souvenez que c'était quand même notre ami. Aujourd'hui, on admire cette ouverture de la Tunisie à la démocratie, mais à condition que ses enfants ne sortent pas, ne profitent pas de cette ouverture pour aller voir ailleurs s'ils y sont. Rencontre avec Omeya Sedi, qui est un vieux militant associatif qui est rompu à ces histoires d'immigration entre la France et la Tunisie, et qui est membre de la FTCR, Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives.
Cette histoire est une histoire double. C'est une histoire d'un côté qui est vieille comme le monde, c'est l'histoire des migrations. Ça n'a pas commencé ces semaines-ci, ça dure depuis des années, voire des siècles, et ça ne s'arrêtera pas. Mais il y a un aspect de cette histoire qui est toute nouvelle également, qui a commencé avec ce qu'on a appelé la révolution en Tunisie. La situation n'est plus la même. Le gouvernement n'a plus les moyens d'empêcher les gens de partir comme c'était possible à l'époque de Ben Ali. C'était possible au prix d'un système de contrôle et de répression que seule une dictature peut fournir. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Et donc, les gens partent plus facilement. Et le gouvernement tunisien ne peut pas accepter des expulsions massives, vu que maintenant, il doit tenir compte d'une opinion publique.
Des expulsions de la part de...
De la France ou de l'Italie. La France ou l'Italie ne peuvent pas envoyer des gens en Tunisie sans que la Tunisie soit d'accord. Et la Tunisie, aujourd'hui, ne peut plus accepter des rapatriements massifs. Donc ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que pour ces gens-là, avoir fait la révolution, c'est avoir montré qu'on peut obtenir la liberté. Et la liberté, c'est la liberté en Tunisie, c'est la liberté face à la police, face à l'État, mais c'est aussi la liberté d'aller et venir, de chercher le bonheur là où on veut.
C'est en ça que ça fait penser un peu à la chute du mur de Berlin. Et tout d'un coup, à la vague d'envie de voyager qui est apparue après la chute du mur de Berlin pour les gens qui habitaient à l'est du mur.
Moi, j'étais en Tunisie pendant l'insurrection, et puis quand Ben Ali est tombé. Et 2 semaines après, on a entendu parler de début de vague de départ importante vers Lampedusa. Les autorités italiennes ont parlé d'une invasion de barbares, ils ont parlé de tsunami. C'est le mot de Maroni, le ministre de l'Intérieur italien. Alors Lampedusa est une petite île italienne de 22 km², 5600 habitants et plus d'un millier d'agents de forces de l'ordre diverses et variées. C'est le point de l'Europe le plus proche de l'Afrique. Donc c'est le point où il est plus facile et plus rapide d'arriver quand on vient de Libye ou de Tunisie. Alors traditionnellement, quand il y a des gens qui arrivent là-bas, on les transfère dans des centres d'accueil, d'hébergement ou de rétention sur le continent italien ou en Sicile. Sauf que il se trouve que cette fois-ci, le gouvernement italien avait beaucoup de difficultés politiques, judiciaires, et il avait besoin d'une grande affaire sur laquelle détourner son opinion publique et montrer qu'ils sont les protecteurs de l'Europe. Donc le gouvernement italien a décidé de bloquer les migrants sur cette petite île, de ne pas les transférer, jusqu'à ce qu'ils atteignent un nombre ingérable par une île aussi petite. Et fatalement, ça allait causer une situation explosive, invivable, et ça allait aider le gouvernement italien à dire « Regardez, il y a une invasion qui va déstabiliser l'Italie. » Et l'Italie a essayé de rapatrier massivement les Tunisiens, y compris sur des bateaux militaires en masse. Et le gouvernement italien pensait qu'il pourrait imposer au gouvernement tunisien une telle solution. Sauf que la révolution était passée par là. Il y a eu une forte mobilisation. Ça a marché et Roberto Maroni, le ministère de l'Intérieur, et Berlusconi, le premier ministre italien, étaient très surpris. Ce qui fait que le gouvernement italien s'est trouvé devant une impasse de laquelle Berlusconi s'est sorti d'une manière assez rusée, en déclarant qu'il délivrait 22 000 permis de séjour temporaires de 6 mois et en incitant fortement
les Tunisiens à partir vers la France.
Ce sont donc plus de 25 000 Tunisiens qui ont débarqué sur les côtes italiennes.
Claude Guéant.
À nos yeux, les choses sont claires.
Ministre de l'Intérieur et de l'Immigration.
Ni l'Italie ni la France n'ont vocation à accueillir ces migrants.
11 avril 2011.
Il n'y a pas de raison que nous accueillions une population immigrée venant de Tunisie qui ne vient en Europe que pour des raisons économiques.
Je m'appelle Maki, j'avais 23 ans, je suis un migrant tunisien en France depuis plus que 2 mois. Je suis parti de la Tunisie au début de février. Je suis parti d'une ville qui s'appelle Zarzis, c'est juste à la sud de la Tunisie. C'est une grande zone touristique, c'est près de Djerba aussi. J'ai pris un diplôme Pizza Youlou et je travaillais dans plusieurs hôtels, des Club Med et des hôtels de luxe. De ce temps-là, avec les contacts, avec les clients et tout ça, je pense toujours à aller en France. Voilà, je te jure, c'est comme ça, quoi. Tu peux dire courageux, capable, je veux prendre le risque dans ma vie, je veux vivre. C'est pour ça que je suis venu ici. Une envie d'aventure. J'ai pas envie de passer toute ma vie ici en France. C'est juste pour 3-4 années peut-être. Je veux retourner avec une petite somme d'argent et comme ça je peux ouvrir un restaurant là-bas pour que je vive. Mais en Tunisie, c'est pas la question qu'il y a pas de travail là-bas. Il y en a beaucoup de travail. Il y en a partout de travail. Le problème, c'est les mauvais salaires. Tu peux rien faire avec ton salaire, quoi.
C'était combien ton salaire dans le tourisme?
C'est 420 dinars, ça fait 205 euros par mois. Et j'ai de la chance parce qu'il y en a plus mauvais que mon salaire. Il y en a des gens qui prennent 200 dinars, ça fait 100 euros par mois.
Alors que tu travailles dans des hôtels Club Med et Marmara et...
Ouais. Des gros hôtels, mais les salaires, ils sont comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi.
Et par exemple, une location en Tunisie, c'est combien?
Un studio, tu peux retrouver à 300 dinars, 150 euros par mois. Tu peux aussi te retrouver à 100 dinars par mois, 50 euros. Ben, c'est un salaire. Si t'as d'enfants, si t'étais marié, t'es toujours dans la merde, quoi. Mais ça va changer, je crois, dans les années prochaines.
Certainement, il faut espérer que ça va changer dans les années prochaines. En tout cas, au passage, on voit que le tourisme en Tunisie, c'est une affaire qui est pas mauvaise parce que je ne sais pas très bien quels sont les tarifs qui sont proposés à ceux qui veulent aller se dorer la pilule en Tunisie. Mais quand les serveurs sont payés entre 100 et 200 euros par mois, ça a dû laisser de jolies marges aux entreprises de tourisme. Et on espère que ça va continuer parce que en ce moment, le problème, c'est que il y a une chute du tourisme en Tunisie. Donc, si vous hésitez sur votre prochaine destination, allez faire un tour là-bas peut-être. Mais il se pourrait que vous tombiez sur des serveurs qui ont un peu changé et qui espèrent être un petit peu moins mal considérés. En tout cas, ceux qui sont venus en Italie et surtout en France, on comprend d'où ils viennent. On retrouve Omeya Sedik de la FTCR.
Avant 1986, les visas pour l'Europe n'existaient pas. La France a mis en place le visa en 86. D'ailleurs, la raison n'était même pas l'immigration, c'était suite à des attentats qui ont eu lieu à cause d'un conflit entre États, qui n'a rien à voir avec le Maghreb. Et à l'époque, il n'y avait ni invasion, ni catastrophe économique. Depuis la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe forteresse, la situation empire du point de vue économique, sécuritaire, etc. Et donc les politiques de contrôle et de répression de l'immigration sont la principale cause de ces troubles-là. Écoutez, par exemple, en Tunisie, il y a un très grand nombre de sociétés européennes qui se sont installées en Tunisie, qui fabriquent du textile ou des composants ou des pièces détachées, je ne sais pas quoi, pour des industries européennes. Une partie d'entre elles sont des délocalisations, c'est-à-dire qui, pour faire pression sur les salaires des Français, vont travailler en Tunisie, mais vont là-bas et surexploitent les Tunisiens, qui sont obligés d'accepter des conditions de travail et de salaire absolument indignes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Si les Tunisiens avaient la possibilité d'aller chercher du travail ailleurs. Ils accepteraient jamais des conditions indignes chez eux. C'est une question de division internationale du travail et c'est une question de surexploitation des gens qui a un impact aussi bien sur les salariés français que sur les salariés tunisiens, etc. Et par ailleurs, et ça nous concerne directement, ces politiques de répression de l'immigration sont la cause directe, je dis bien la cause directe, de la mort d'au moins 16 000 personnes en mer depuis 88. Donc nous pensons que ces politiques-là ont tué au moins 16 000 de nos frères, sœurs, qui sont mortes en essayant tout simplement d'exercer leur liberté d'aller et venir et d'exercer leur liberté d'aller chercher du travail là où il y en a.
Ce journal britannique relate un drame qui aurait eu lieu fin mars.
France 24.
Un bateau avec à son bord 72 passagers a quitté la région de Tripoli.
10 mai 2011.
Puis rencontré des problèmes techniques. L'alerte est donnée aux gardes-côtes italiens. Un hélicoptère et un navire de l'OTAN, le Charles de Gaulle selon le Guardian, les auraient vus. Et pourtant, aucun sauvetage. Le navire a dérivé pendant 16 jours. Plus de 60 personnes sont mortes de faim et de soif. L'embarcation s'échoue près de Zlitane. La France nie avoir ignoré les appels de détresse des migrants dans cet incident et assure que le Charles de Gaulle n'a jamais été en contact avec l'embarcation en difficulté.
Alors, je m'appelle Arnaud Muller, je suis journaliste et je viens d'écrire avec Nicolas Beau un livre sur Tunis et Paris, les liaisons dangereuses, les liens en gros entre les entreprises françaises et les proches de l'ancien régime, de l'ancien président Ben Ali.
Oui, les entreprises françaises, on retrouve Arnaud Muller en effet, parce que on a compris les liens qui existaient entre les politiques français, un certain nombre de personnalités et le pouvoir de Ben Ali, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises, 1200 entreprises françaises qui sont depuis longtemps présentes sur le sol tunisien. Et donc voilà, est-ce que l'échange est bien équitable? Est-ce que entre ces jeunes Tunisiens qui viennent ici chercher une meilleure vie, tenter leur chance, et les entreprises françaises qui sont depuis longtemps implantées en Tunisie, elles aussi pour tenter leur chance, est-ce que tout ça est bien équilibré, Arnaud Muller?
On a découvert à quel point en fait les entreprises françaises, parmi lesquelles les plus importantes, les plus connues, étaient structurellement liées avec des membres de la famille de Ben Ali, avec des gendres. Et ils ont fait des affaires ensemble pendant des années. C'est le cas de Peugeot, c'est le cas d'Orange, c'est le cas Bricorama aussi. Et après, il y a toutes les entreprises, effectivement, des petites entreprises françaises, plus des PME, qui sont des entreprises qui sous-traitent pour l'automobile, pour le textile, beaucoup. La France est le premier partenaire tunisien de ce côté-là. Il y a plus de 1200 entreprises françaises installées en Tunisie. Et là, en ce moment, il y a un drôle de climat, en fait, parce que la révolution tunisienne s'est accompagnée de revendications salariales, sociales très fortes. Les travailleurs tunisiens ne veulent plus être l'atelier, ils me le disaient, on veut plus être l'atelier de la France, on veut plus fabriquer vos chemises pour deux sous, la puissance coloniale s'est terminée, et aujourd'hui, nous, on a viré Ben Ali, c'est pas pour se faire exploiter par des sociétés françaises. Donc, ils réclament des augmentations de salaires substantielles, hein. Il faut savoir que les salaires sont extrêmement bas. À Tunis, c'est de l'ordre de salaire moyen, c'est autour de 200 €, hein, à peu près. Le coût de la vie a flambé, donc c'est très difficile. Et les travailleurs tunisiens n'étaient pas du tout mieux lotis quand ils travaillaient pour des entreprises, ou quand ils travaillent encore aujourd'hui pour des entreprises françaises, que pour des entreprises tunisiennes. Ça ne change absolument rien. Les pauses déjeuner, elles sont ridicules, c'est de l'ordre de 30 minutes. Les heures travaillées sont énormes, les salaires sont très bas. Moi, j'en ai rencontré des femmes, notamment, qui fabriquent des câbles électriques et qui bossent à la chaîne 10 heures par jour et qui gagnaient le salaire moyen, elles gagnaient entre 150 et 200 euros. C'est pour ça que si on faisait le solde de ce qu'ont gagné les Français pendant des années à Tunis et de ce que tentent de gagner les petits Tunisiens qui embarquent, risquent leur vie pour venir travailler en France, je pense que les Français qui se sont installés là-bas ont gagné beaucoup plus d'argent et que l'inverse, quoi. Donc cet argument de dire on peut pas économiquement, c'est pas possible, et l'argument de l'extrême droite de dire ces étrangers qui bouffent le pain des Français, c'est une absurdité, quoi. Économique avant tout.
Mohamed, aujourd'hui c'est un grand jour pour toi.
Eh ouais.
Tu vas nous quitter, partir en France.
Mm-hmm. France.
Hein?
J'espère que ton voyage va très bien se passer.
Oui, oui.
Mais là-bas, il faudra penser à nous, mon frère.
Oui, je sais.
Le village a fait des grands espaces pour toi.
Mm-hmm. Bon voyage.
Ma vie se résume à rien. Le temps passe, il faut que je me prenne en main. Que la famille mange à sa faim. Dans mes poches, que dans nada, hatsa, y'a rien. Mon cerveau torturé pendant tant de nuits. La folie me prie. Réunis femmes, enfants et amis. Leur dit qu'il me fallait quitter cette misère. Donner un sens à ma vie si amère. J'en ai assez de vous voir pleurer. Un par un crevé sans pouvoir me manifester. Je n'en peux plus de m'apitoyer. Je dois bouger, voyager, travailler. Quand j'en aurai assez plein les poches, je reviendrai, la fin m'a guidé. Vendu ce que j'avais tout bradé. Histoire d'avoir de quoi payer mon billet. Je suis parti à la conquête d'Eldorado sans papier, sans dans papier. La clandestinité. Je vais devoir lutter, mais je suis décidé, j'y vais. Demain je quitterai ce lourd fardeau, guidé par mes idéaux, charmé par le faux, je partirai pour Eldorado, Eldorado. En m'exilant chez la dame de France, mon Eldorado. Je pensais que tout était rose, la vie facile, mais tout est noir. Sans espoir, à peine 10 mois que je suis là, je regrette déjà. On m'a vendu du rêve, j'ai rien vu, j'ai rien eu. J'ai donc conclu qu'Eldorado n'offre que de l'horreur. Des enfants qui meurent, des mères qui pleurent, des pères dans la terreur, des sœurs qui vendent leur corps pour s'en sortir. Pire, certains se shootent et n'ont plus d'avenir, tentent de fuir. Ce diable qui un jour entre dans ta vie sans prévenir. Qu'est-ce qui m'a pris? Être venu ici, c'est la pire des conneries. J'ai voulu faire la caille, me retrouve sans travail comme une canaille. J'y joue à cache-cache avec la flic. C'est décidé, je veux rentrer chez moi.
Mon mec, tu sais français, comprends pas.
Je m'étais donné 5 mois pour entrer dans le système. Mais voilà, c'est feria, génération de braqueurs. La jeunesse nique le dawa. À chaque coin de rue, des prostituées, des camés, des guerriers. La vie de rêve, ça n'est pas ici que je risque de la trouver. Donc je m'en vais, ciao Eldorado. Et à jamais, et à jamais. Ni là, ouais. Demain, je quitterai ce lourd fardeau. Guidé par mes idéaux, charmé par le faux, je partirai pour Eldorado, Eldorado.
Combien ont effectivement marché, volé, couru, roulé vers ces Eldorado, ces endroits, ces horizons où la vie est meilleure, où c'est merveilleux, où il y a des femmes magnifiques, où des trésors. Hein, depuis que l'homme existe, il a toujours marché sur vers ces lointains, splendides. Et heureusement. Je ne sais pas si c'est si heureux que ça, mais en tous les cas, c'est lié à notre histoire. On n'a jamais pu empêcher les hommes de marcher vers ces horizons. Et je ne pense pas que Monsieur Guéant, Claude Guéant, y arrivera plus que ses prédécesseurs. Mais enfin, bon, il est en campagne. Il a ce boulot-là. On lui a donné ce boulot-là de marquer le Front National à la culotte. Alors, il le fait, mais il sait très bien que c'est n'importe quoi. Mais enfin bon, voilà, c'est la démocratie à la française qui l'oblige. Concernant ces jeunes Tunisiens venus en France, oui, vers cet Eldorado, vers cette terre promise, et puis aussi pour fuir leur pays en difficulté, en galère, et puis simplement la curiosité d'aller voir là-bas s'ils y sont, on retrouve Omeya Sédik.
Beaucoup d'entre eux voulaient venir en France, et ça, c'est pas pour rien. C'est parce que la France est le principal partenaire économique, social et culturel de la Tunisie. C'est l'ancienne puissance coloniale. Ça a été le principal soutien de la dictature de Ben Ali pendant des dizaines d'années. Et il y a une très très forte communauté migrante tunisienne en France. Sauf que le gouvernement français, comme le gouvernement italien auparavant, n'a pas eu peur de tomber dans l'illégalité et l'arbitraire le plus complet, y compris avec ceux qui désormais étaient détenteurs de permis de séjour européens qui leur permet légalement de circuler en Europe et donc de venir en France.
Oui, parce que ce permis de séjour italien donne l'autorisation à ces Tunisiens de circuler librement dans toute l'Europe, dans l'espace Schengen.
Absolument. Mais Sarkozy, de la même manière que Berlusconi et Maroni en Italie, voulait fabriquer un point de blocage spectaculaire pour montrer qu'il est aussi efficace que Marine Le Pen pourrait l'être. Donc il y a eu une crise principalement à Vintimille, sur la frontière italo-française. Et là-bas aussi, il y a eu un grand déploiement policier, absolument inefficace, parce que, bon, ils empêchaient les gens de rentrer, mais les gens rentraient quand même par des chemins de traverse, ou alors ils les refoulaient vers l'Italie tout en sachant qu'ils allaient repartir le lendemain. Et puis surtout, il y a eu des circulaires et des consignes qui ont été données aux polices françaises pour faire une véritable chasse aux Tunisiens. Une chasse aux Tunisiens qu'on peut voir un petit peu en région parisienne, mais qui est terrible dans le sud de la France, dans la région PACA, où ces jeunes Tunisiens vivent comme des proies pourchassées par des polices qui ont des consignes de contrôle et de répression absolument ciblées. Nous, on considère que ce sont des opérations racistes.
Les migrants de Tunisie et de Libye continuent d'affluer vers l'Italie. Votre région et les Niçois ne cachent plus leur inquiétude. Est-ce qu'elle n'est pas exagérée ?
Europe 1, 8 avril 2011.
Si, l'inquiétude est exagérée, mais elle est légitime.
Christian Estrosi, député des Alpes-Maritimes.
Parce que l'on comprend que lorsqu'à 25 km de la frontière, nous avons un afflux massif d'immigrés, notamment tunisiens, nous devons nous demander si les forces de l'ordre, si les mesures entre la France et l'Italie, entre l'Union européenne et l'Italie, nous éviteront un afflux à travers nos frontières. Alors, mais ça n'est pas que les Niçois, c'est la France tout entière qui est concernée, puisqu'il faut savoir que ceux qui passent à travers les mailles des filets débarquent aussi bien en gare de Nice qu'ils peuvent le faire en gare de Lyon à Paris.
Le gouvernement Berlusconi va délivrer des permis de séjour valables jusqu'à 6 mois dans l'espace Schengen. Les migrants pourraient ainsi franchir les barrages de Vintimille en toute légalité et liberté vers certains pays européens et la France en particulier.
Faux. C'est faux. Je vous le dis, ces gens ne rentreront pas en France.
Bonjour, je suis Maître Maktouf. Là, je ne suis pas en tant qu'avocate. Je suis présente à leur côté en tant que sœur, en tant que Tunisienne.
Square de la Villette, Paris.
Et là, vous êtes entouré par une dizaine d'hommes.
Salam.
Vous appelez comment, pardon ?
Abdelrazak Mayouf.
Il est furieux parce que hier, il a fait l'objet d'une interpellation. Il a été très, très maltraité. Il voudrait en témoigner. On leur a enlevé leurs affaires. Ils étaient dénudés. La foule s'est passée de manière indigne puisqu'on lui a demandé d'enlever ses affaires. Pendant 7 à 8 reprises, nous avons été sortis du box pour être auditionnés, questionnés. On nous remettait dans les box. Quelques minutes après, ils refaisaient et donc il a dû s'engueuler avec eux. Qu'est-ce qu'il posait comme question ? Il s'est tapé lui-même tellement il a perdu ses nerfs. Il s'est fait mal. À la main. Qu'est-ce qu'il vous posait comme question ? Est-ce que tu es venu travailler ou pas ? Depuis quand êtes-vous là ? Est-ce que tu as des gens ici ? C'est des questions de routine. Et à quoi ça sert de poser ces questions-là puisqu'il a été relâché finalement ? En fait, oui. Parce que vous savez, c'est un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière lui donnant un délai de 7 jours pour quitter le territoire français. Et c'est un peu pour épuiser les gens qu'on les... Écoutez, ils sont interpellés tous les jours. Là, hier, en arrivant, ils étaient interpellés. En fait, moi, ce que je regrette, c'est que les interpellations sont en train de se faire dans des conditions inhumaines, indignes, au mépris total de la règle de droit, dans un état de droit qui est la France.
En février, il y a eu dans les Alpes-Maritimes...
5 mars 2011.
436 interpellations de personnes en situation irrégulière.
Claude Guéant, ministre de l'Intérieur et de l'Immigration.
Parmi ces 436, 210 étaient originaires de Tunisie. Cela représente entre un doublement et un triplement du nombre de Tunisiens interpellés en situation irrégulière dans le département. Ce que nous pouvons dire par conséquent, c'est que nous ne sommes pas face à un raz-de-marée, mais il y a quand même une poussée qui s'esquisse et à laquelle nous devons faire face.
Voilà, faire face à la... Alors, ce qui n'est pas encore un raz-de-marée, c'est le point de vue de Monsieur Guéant, qui est membre de l'UMP. Mais il ne faut pas croire que tous les gens de l'UMP sont d'accord avec Monsieur Guéant. Exemple, Étienne Pinte, qui est membre de l'UMP et député de Versailles.
Étienne Pinte, député des Yvelines, député UMP. En fait, à la suite des 4 ou 5 projets de loi sur l'immigration que le gouvernement nous a proposés depuis 6 ou 7 ans, nous nous sommes rendus à l'évidence que s'il y avait tant de projets de loi, c'est que notre politique de maîtrise de l'immigration et de l'intégration était un échec. Et donc, nous nous sommes dit, avec d'autres collègues parlementaires de la majorité et de l'opposition, qu'il fallait essayer de dépassionner le problème, de tuer les fantasmes, et nous nous sommes dit que la meilleure solution, c'était de donner la parole aux chercheurs, aux experts. C'est ainsi que nous en avons donc auditionné 35.
Vous avez interrogé des démographes, des géographes,
oui,
des économistes, des sénateurs, des membres du syndicat de la police,
oui,
des officiers des renseignements généraux.
Tout à fait. Nous en tirons la conclusion que, contrairement aux peurs et aux inquiétudes que peuvent avoir certains de nos concitoyens, les problèmes migratoires, d'abord, ont existé de tout temps, mais également qu'il faut essayer de rendre aussi transparent que possible la réalité. Je vais vous donner un seul exemple. Le ministre de l'Intérieur annonce le nombre de migrants que nous accueillons chaque année de façon régulière. Le chiffre qu'il avance aujourd'hui est de 200 000. Mais il pêche par omission. Il oublie de dire qu'il y en a beaucoup qui repartent dans leur pays d'origine, entre 80 et 100 000. C'est ça, si vous voulez, que nous voulons démystifier.
Le rapport auquel vous avez participé, l'audit, oui, des parlementaires, montre aussi que la police aux frontières a un coût qui est encore plus élevé que celui qui est annoncé par les autorités. Le coût d'un renvoi à la frontière d'une personne est de 200 000 euros.
Oui.
Et le sénateur UMP, Pierre-Bernard Raymond, a calculé, lui, que ça équivaudrait à 445 000 euros.
C'est ça. Écoutez, je pense que ça coûterait moins cher. Je dirais au contraire, ça rapporterait des cotisations sociales et fiscales à la France de régulariser un certain nombre d'immigrés que de les pourchasser pendant des semaines et des mois. Et donc là encore, si vous voulez, on se retrouve devant des mythes qui sont véhiculés. Et ce n'est pas comme ça qu'on rend responsable nos concitoyens. Mais on oublie de dire aussi qu'on ne peut pas en même temps applaudir des deux mains la fin d'une dictature et ne pas essayer d'accompagner nos amis tunisiens qui sont dans une situation économique et sociale très difficile. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a à l'heure actuelle 500 000 chômeurs en Tunisie. En 1962, nous avons accueilli plus d'un million de rapatriés d'Afrique du Nord. Plus d'un million
de... Au moment de l'indépendance de l'Algérie.
Exactement. Donc, si nous sommes arrivés dans le passé, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on n'arriverait pas à faire la même chose, surtout à 27, alors qu'à l'époque, ils ont été accueillis uniquement en France.
Et que là, il s'agit de 15 000 personnes en plus.
Oui, exactement. Je compléterai ma réflexion de la manière suivante. Est-ce que parmi les immigrés en situation irrégulière se trouvant sur le territoire national, est-ce qu'une partie d'entre eux ne pourrait pas être régularisée puisqu'elle travaille vraisemblablement déjà dans l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, le service à la personne.
Au noir.
Qui actuellement travaille au noir et qui, parce qu'on en a besoin, pourrait être régularisée, ce qui assainirait en quelque sorte le marché du travail dans ces secteurs-là. Bon. Et si ça ne suffit pas, on pourrait très bien imaginer qu'on puisse accueillir temporairement, pendant quelques années, 3, 4, 5 ans, des Tunisiens qui pourraient en quelque sorte compléter la main-d'œuvre dont nous avons besoin dans tel ou tel secteur.
Voilà, c'est Étienne Pinte, député UMP des Yvelines, je le répète, et qui est pas vraiment un gauchiste effréné, voilà, qui simplement fait état de cette audite parlementaire. Alors on va finir avec Salvatore Palida, qui est un chercheur qui est italien, parce que cette histoire concerne, on l'a bien dit, toute l'Europe, et notamment l'Italie, qui s'est trouvée, elle aussi il y a pas mal d'années déjà, mais quand même, face au même problème au moment de l'explosion de la Yougoslavie, avec les Albanais. Vous vous souvenez de ces images terribles, de ces bateaux avec des grappes humaines qui se dirigeaient vers l'Italie, vers les côtes, vers Bari notamment. Eh bien, l'Italie a reçu, a accueilli, contrainte et forcée bien sûr, ces immigrés, ces réfugiés, et puis les a peu à peu intégrés. Maintenant, les Albanais font partie de la population italienne, avec tous les problèmes que ça pose, mais enfin, c'est en voie d'intégration. Donc on finit avec Salvatore Palida, qui vient de sortir un bouquin sur les migrations critiques.
Je m'appelle Salvatore Palida. Je suis professeur de sociologie à l'Université de Gênes et j'ai fait des recherches sur l'immigration à l'échelle européenne et internationale depuis plus de 30 ans, quoi.
Voilà, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Migration critique.
Tout d'abord, il faut dire une chose, que il peut y avoir au total 24 000 Tunisiens qui sont partis après la révolution ou pendant la révolution. De ces 24 000, il semble que environ 15 000 sont en France et que finalement en Italie sont restés peut-être 5 000, peut-être 6 000, mais pas plus que ça. Ça représente rien, c'est ridicule que des pays de 60 millions d'habitants puissent se poser des problèmes pour 15 000, 10 000, mais même 30 000 ou même 50 000 immigrants. Voyons, c'est vraiment ridicule. Un pays de 60 millions d'habitants, est-ce qu'ils doivent avoir peur de ça? Et en plus, la France, c'est vraiment l'Europe en général, c'est vraiment ignoble l'attitude qu'il est en train de faire. S'il voulait faire un geste, un minimum de compréhension par rapport à ce qui a été la révolution, etc., la première chose à faire, c'était de donner immédiatement un permis de séjour à ces gens et leur permettre l'accès au travail. Si vous imaginez combien c'était, la dernière grande immigration en France, c'était quoi? Les Portugais.
En 74, la révolution des œillets.
Voilà. Il y a presque 800 000 déferlés en France.
Parce
et c'est qui après a fait les grands travaux et tout le développement de l'immobilier en France entre 1974 et les années 80? C'était exactement les Portugais, comme par hasard. Si on régularisait tout de suite tous ces gens, ferait en sorte de leur permettre d'avoir accès à un travail, à un logement régulier et stable, il n'y aurait pas de problème. Au moment où on adopte une politique prohibitionniste et on interdit l'accès à la régularité, qu'est-ce qui se passe? Que ces gens, ils restent dans la nature clandestins. Et alors, clandestin, ça veut dire quoi? C'est une manœuvre qui peut être esclavagisée, oui, ici, en Europe même. Parce que c'est de la main-d'œuvre qu'on peut payer très peu et qu'avec un coup de pied, on peut le foutre à la porte quand on veut. Et parfois, même, on les menace en disant « Attention, si tu parles, tu oses ne pas faire ce qu'on t'a dit de faire. On appelle tout de suite la police et on te fait expulser. » Ça, c'est le mécanisme le plus terrible et le plus efficace pour produire des esclaves. Comme disait Abdelmalek Sayad, c'est le plus grand sociologue de la migration, attention, c'est qu'on expérimente sur le dos des immigrés, après on l'applique aussi à la part des autochtones les plus faibles, les plus susceptibles d'être infériorisés. Et c'est ce qui se passe, par exemple, quand on voit le travail précaire et l'oscillation continue entre travail précaire, travail noir, etc. Ça, c'est exactement la condition des immigrés et c'est la condition que touche de plus en plus une grande partie des jeunes européennes, français, italiens, etc.
Vous voyez
ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ces jours-ci, en Espagne. Voilà.
Alors, ce qui se passe ces jours-ci en Espagne, on envisage de partir pour Madrid et pour Barcelone. Alors, si vous êtes là-bas, si vous avez des tuyaux, vous avez le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, ou le mail de l'émission qui est daniel.mermet@radiofrance.com. daniel.mermet@radiofrance.com. Merci à tous, c'était un reportage d'Inès Leroux. Merci à Maki, Mohamed et à tous les jeunes Tunisiens du Parc de la Villette à Paris. Merci à Maître Samia Maktouf. Merci à Omeya Sedik, Arnaud Muller, Salvatore Palida et Étienne Pinte. Alors, à lire Tunis et Paris, les liaisons dangereuses, un bouquin qui vient de sortir de Nicolas Beau et Arnaud Muller aux éditions Jean-Claude Gavzevitch. C'est la mode des livres minces. Il fait 60 pages, mais c'est très très dense. Et ça règle pas mal de choses, dont celle qu'on vient d'évoquer sur les entreprises françaises depuis longtemps présentes en Tunisie. Et puis, le livre de Salvatore Palida, Migration critique, qui vient d'être traduit en français et publié chez Cartala, repenser l'immigration comme mobilité humaine en Méditerranée. Ça a l'air d'être très savant comme ça, mais vous avez vu la pêche de Salvatore Palida. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, Coy Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission à cité d'Agnès Le Bot. Et j'avais bien dit que c'était un reportage d'Inès Léraud, hein, oui, d'accord. Et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Alors, cette planche là, cette charnière ici. Je comprends rien au montage de cette armoire. Fred, tu m'aides ?
Ah ouais, non, et pas tout de suite. Je dois m'occuper des impôts, sinon on va être hors délai et tout.
Fred, ça fait 2 ans qu'on déclare sur Internet. Tu sais très bien qu'on dispose d'un délai supplémentaire. Alors viens m'aider.
Quand vous déclarez vos revenus sur impots.gouv.fr, vous disposez d'un délai supplémentaire. La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Et pour le montage de l'armoire, je pourrais pas avoir un délai supplémentaire ?
Ceci est un message du ministère chargé du budget.
Et voici l'ultime question de ce jeu. Quelles sont les activités accessibles avec des chèques vacances ? Top !
Un week-end en gîte.
Exact.
Les colonies de vacances ?
Exact.
Les billets d'avion, de train ?
Oui.
Un stage de voile, de tennis ?
Bonne réponse.
Une traversée en ferry ?
Oui.
Une sortie aux eaux ?
Exact.
La piscine ?
Oui, très bonne réponse, Didier.
Les chèques vacances, c'est 1001 façons d'augmenter votre pouvoir d'évasion. Demandez-les à votre employeur ou à votre comité d'entreprise. ANCV, parce que les vacances, c'est essentiel.
Bonjour, c'est Thierry Lhermitte, je suis le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale. Je vous invite à vous mobiliser pour combattre toutes les maladies à nos côtés. Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit dans tous les domaines de la recherche. Maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, les cancers, elle sait où sont les urgences, elle connaît les besoins. Pour que la recherche bénéficie à tous, la Fondation a besoin de vous. Faites un don sur frm.org.
Journée de la Fondation pour la Recherche Médicale du 27 au 29 mai.
16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Thomas Lavaux. Salut.
Et c'est peut-être le premier exploit de la quinzaine à Roland-Garros. Le français Stéphane Robert, 140e mondial, fait mieux que de se défendre contre le tchèque Berdych, tête de série numéro 6, Matteo Maestrachi.
Oui Thomas, on rappelle que Robert est issu des qualifications, effectivement. Alors le scénario du match, il a perdu les deux premières manches 6-3, 6-3. Il a remporté les deux suivantes, Stéphane Robert 6-2, 6-2. Et actuellement, dans le cinquième set décisif, il est mené par Berdych 7-6. Donc évidemment, il y a beaucoup d'ambiance actuellement sur le court numéro 2, beaucoup de tension, c'est très bouillant et on espère que Stéphane Robert va créer la première surprise du jour. On rappelle pour les derniers résultats que Florent Serra, le français 118e mondial, a été éliminé par le russe Igor Andreev, 92e mondial, défaite en 3-7, 6-4, 6-1, 6-3. Andreev qui jouera au tour suivant face à Joe Wilfried Tsonga qui s'est qualifié hier. On suit actuellement sur le court central le match du numéro 3 mondial Roger Federer qui affronte l'espagnol Feliciano Lopez. Il a remporté le Suisse les deux premiers sets 6-3, 6-4. Il est mené dans la troisième manche actuellement 3-2 par le 41e mondial. Gaël Monfils est en train de jouer face à l'Allemand Björn Faux, 145e mondial. Gaël Monfils, hein, numéro 1 français qui est 9e mondial. Il est en train de jouer sur le court Suzanne Lenglen. Monfils, il a perdu le premier set 6-4. Il a remporté le deuxième 6-3. Il y a deux jeux partout dans la troisième manche entre les deux hommes. C'est assez disputé. Et enfin, Mickaël Liudra qui lui joue face au Belge Steve Darcy. Il a remporté le premier 7-7-6 et il est mené dans la deuxième manche 3-2. Donc Stéphane Robert qui va peut-être créer l'exploit face à Thomas Berdych.
Matteo Maestrachi en direct de Roland-Garros et on attend un petit peu plus tard l'entrée en lice de Richard Gasquet. Un homme d'une trentaine d'années recherché par la police. Il est soupçonné de plusieurs agressions sexuelles sur une fillette de 10 ans samedi en fin d'après-midi à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Il avait déjà répondu devant la justice de faits similaires. C'était en 2007 et en 2009. La sécheresse est la situation très préoccupante sur plus de la moitié de la France. Le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, était sur ses terres ce lundi. Il a visité une exploitation agricole du département de l'Eure. Ce matin, il a annoncé la convocation prochaine du Fonds de garantie des calamités pour aider les exploitations fortement touchées. Au procès Clearstream, les réquisitoires des avocats généraux ont commencé en début d'après-midi devant la Cour d'appel de Paris. Pour l'un d'eux, la dénonciation calomnieuse est à l'initiative de l'ancien président de ADS. Jean-Louis Gerbaud. Pierre Gorin. En clair, la piste de la vengeance politique privilégiée par Nicolas Sarkozy, dont le nom figurait sur les listings, ne peut être à l'origine de cette manipulation. De nouvelles réquisitions sont attendues, cette fois contre Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre. Plusieurs personnes ont été blessées dans des affrontements violents au Yémen. Des échanges de tirs opposent depuis le début de l'après-midi la police et les partisans d'un chef tribal à Sanaa, la capitale. Les violences surviennent un jour après l'échec d'une médiation et le refus par le président Ali Abdallah Saleh d'accéder à un accord prévoyant son départ.
Tous les jours,
Sophie a une allure folle.
À partir de 11h,
voilà. Le fou du roi.
Stéphane Bern.
J'ai l'impression que j'ai tout mis en branle de façon assez rapide, mais parce que vu qu'on arrive à la fin de cette émission.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106, avec Léa Drucker et Géraldine Maillet, rendez-vous demain mardi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Ah ben c'est rassurant.
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter, à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Et à 16h04 sur France Inter, vous retrouvez Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon.
Bonjour Thomas. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Un orchestre qu'on aime bien, le Chamber Orchestra of Europe, l'orchestre de chambre d'Europe tout simplement, va venir jouer à Paris. C'est demain à 20h à la salle des concerts de la Cité de la Musique, 221 avenue Jean Jaurès dans le 19e. Métro Porte de Pantin, je ne me lasserai jamais de le répéter, c'est le meilleur moyen. Et mais voilà, je dirais un petit changement après. Mais enfin, cet orchestre, on le connaît, on l'admire. Des gens qui viennent de plein d'ensembles d'Europe et qui se réunissent pour des sessions, tout comme le Divan Orchestra de Daniel Barenboim qui est passé à Paris. Et lui, il est passé très vite et ils ont joué donc superbement samedi. Ce sont des orchestres qui se rencontrent en session par moment pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et quelquefois, ça donne effectivement des résultats tout à fait formidable. Voici un exemple, l'ouverture de l'italienne à Alger de Rossini. Alors Rossini se sert de tous les prétextes, quelle que soit l'intrigue, pour montrer son efficacité d'orchestrateur. Bon, ça scintille de partout, il y a les cuivres, il y a les trombones, et puis il y a le fameux crescendo alla Rossini, c'est comme une recette, ça va de plus en plus fort, comme des vagues qui montent, une marée qui nous assaille, mais qui nous assaille et nous donne plein de bonheur, bien sûr. Thank you.